Et nous parlions de la place de
la musique aussi.
Les réponses les plus erronées viennent de ces questions très générales.
Le cerveau est encombré d'images.
Vous pensez à
Vous entendez des questions? Vous êtes d'accord?
Est-ce que c'est à l'air
Et quelqu'un pour ouvrir la fenêtre qui donne la subvention d'un autre. L'air, est-ce qu'on pourrait ouvrir la fenêtre?
Anne-Laure Pigache, Mathias Forge, le flou sur la langue. Et bien voilà, nous voici de retour pour un flou sur la langue en direct, chers auditeurs, chères auditrices. Bonjour, c'est vraiment avec un grand plaisir que l'équipe du flou sur la langue revient dans les studios de Radio Campus, car cette année on a un petit peu de mal à faire une régularité mensuelle tout le
on
temps.
On s'en excuse.
Oh, allez, désolé, parce que franchement, je convie tous les gens là qui écoutent Radio Campus à venir faire des directs à la radio, parce que c'est vraiment trop marrant, quoi. Donc voilà, flou sur la langue, de retour. Bientôt en direct, on vous le dira à la fin, parce qu'on a un rendez-vous public à vous proposer, mais on vous en parlera tout à l'heure. Là, donc, on est, comme on l'a dit, toujours mardi 14 avril, ça bouge pas. Maintenant, il est 16h02, nous, on est dans le studio à Campus, et donc Mathias d'un côté de la vitre et moi de l'autre côté. Salut,
tout à
Mathias.
Fait, je peux en témoigner, je suis là, de l'autre côté de la vitre, vous m'entendez comme si j'étais au même endroit qu'Anne-Laure, à moins, je suis de l'autre côté de la vitre.
Voilà, donc on va se faire des signes un petit peu, mais vous ne les entendrez pas, car c'est à la radio, il n'y a pas d'image. En compagnie, en notre compagnie aujourd'hui, deux invités évidemment exceptionnels, comme à chaque fois. Nina Moreau, bonjour.
Bonjour.
Et Alex Cayette, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter ce grand vertige du flou sur la langue.
Autoportrait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, je ne comprends pas. Comment voulez-vous que je me décrive? Il y a des portraits de moi, c'est les autres qui peuvent le faire. Autant de gens que je connais, autant de portraits de moi, ils sont tous valables. Mais moi, je n'ai rien à dire sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire, qui je suis? Qui êtes-vous, vous? Hein? Qui êtes-vous? Allez-y. Répondez-moi. Hein? Oui, mais qui êtes-vous, vous, qui m'interrogez?
Autoportrait, c'est sûr, ça, c'est pas facile. Donc, bien qu'on ne se connaisse très peu, hein, d'ailleurs, chers auditeurs, chères auditrices, vous allez assister à une rencontre en direct à la radio. On s'est donné rendez-vous tout à l'heure à Ève pour le café, mais voilà, on ne se connaît pas très bien. Mais je vais quand même tenter un portrait de vous, Alex Ayette, pour donner quelques billes à nos auditeurs, nos auditrices. Donc, ce qui m'a semblé pouvoir un petit peu intuiter de vous, c'est que vous avez traversé de nombreux paysages dans votre enfance, entre la Catalogne, l'Italie, le sud de la France, et même plus tard les paysages océaniques de Brest. En tout cas, de tout ça fait de vous quelqu'un de polyglotte, assez à l'aise avec la navigation dans différentes langues, et dans le foot sur la langue, on aime bien ça. Vous êtes aussi météorologue de formation, vous vous intéressez plus particulièrement à la question des nuages. Cette forme d'évanescence, une substance difficilement tangible alors qu'ils remplissent nos vies. Vous allez pouvoir aussi nous parler des nuages. Bienvenue Alex Ayette.
Merci.
Nina Moreau, je me tourne vers vous. Bonjour et bienvenue.
Merci.
Donc je vais tenter de faire de même, comme vous l'aurez bien évidemment compris. Donc Nina Moreau, vous avez visiblement une arrière-grand-mère qui roulait les R et du coup ça vous plaît de le faire ou de le refaire. Vous vivez, je pourrais dire, en compagnie depuis un certain temps de deux femmes paysannes sur pellicule. Cela vous coûte un certain prix, mais vous aimez leur compagnie. Vous chantez avec plaisir à plusieurs, et j'imagine pas que. Et vous développez depuis ce midi tout juste le concept d'archives toniques. Et j'en appelle à vie aux curieuses et pourquoi pas aux financeurs, sait-on jamais. Merci de nous rejoindre, Nina Moreau, sur Le Fou sur la Longue.
Merci à vous.
Allez, la course a commencé, c'est très bien parti pour le numéro 8 et le numéro 9, le numéro 4, les gars, le numéro 5, et le numéro 6 sera pour le cœur remonte très fort. Le numéro 9, le numéro 6 sera pour le remonte également. Le numéro 9, le numéro 4, les gars, le numéro 2, je vais filer. Le 3, Rosa remonte également sur celle-ci. Le 8, elle est pas le numéro 4, les gars, le 2, le 8, plus que quelques longueurs pour nos chameaux. Le numéro 3, Rosa, le 8, elle est pas déjà tout près d'arriver. Le premier qui met la boule, le numéro 2. Bien joué, Joséphine, elle nous arrive en forme.
Alors aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'un sujet omniprésent, j'ai envie de dire un sujet qui est partout, un sujet qu'on croise à l'arrêt de bus, le matin en se réveillant, la nuit dans ses insomnies, parfois en plein milieu d'un repas, c'est la question de l'absence. Et ouais, en fait, elle est partout, elle est là, tout autour de nous. C'est parfois juste un point de vue sur le réel et c'est parfois... un souvenir qui vient s'inviter et qui nous rappelle à certaines absences. Et on avait envie de vous proposer ce thème, Nina Moreau, Alex Hayet, vaste thème qui peut vraiment être pris par l'ordre des lettres A, B, S, E, N, C, E, ou bien à l'envers, ou bien de travers. J'aimerais, parce que la question des nuages m'intrigue, Alex Hayet, parce que c'est vrai que j'ai pas de rapport scientifique aux nuages, simplement, voilà, c'est comme... un truc qui est là, mais c'est vrai que je ne m'y arrête pas beaucoup. Et c'est marrant parce que je trouve que le nuage, quand on n'a pas un rapport savant au nuage, il évoque, pour moi, il y a un truc qui symbolise bien l'absence. C'est à la fois quelque chose qui est complètement là, mais qui est impossible à attraper. Il y a une espèce de paradoxe dans la matière du nuage. Où il est là et c'est comme un peu un fantasme d'enfant qu'on pourrait avoir un nuage dans ses bras, mais c'est impossible. Et ce côté fugace, ou en tout cas quelque chose qui nous échappe en permanence, au plus près on s'en rapproche, au plus loin il s'éloigne. Voilà, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu des nuages. C'est quoi un nuage et est-ce que c'est de l'absence? Est-ce que c'est de la présence? Est-ce que ça n'a rien à voir avec tout ça? Alex Hayet.
Je pourrais vous faire un peu un topo scientifique sur les nuages, mais je crois que j'ai peut-être pas trop envie d'aller dans cette voie-là. Mais ce que vous dites, ça me fait quand même penser au fait que je pense que mon rapport aux nuages, il est très dans l'absence, en fait, parce que j'ai l'impression d'avoir une connexion assez forte avec ces objets, enfin, ou ces éléments. Et je pense que c'est dû au fait que je les ai étudiés scientifiquement. Mmh. Et malgré tout, c'est des choses que j'arrive pas à saisir. C'est comme si je voulais me connecter à quelque chose et je savais pas vraiment comment. Il bouge tout le temps, il fuit. Et en arrivant à Grenoble, une des choses qui m'a beaucoup perturbé, c'est le changement de paysage météorologique, de paysage de nuages, quoi. Donc une absence.
Changement par rapport à
là d'où
vous veniez juste avant.
Oui, de mes souvenirs de Toulouse, de Brest, de la mer, des nuages proches de la mer, c'est des paysages tout à fait différents. Et de mon enfance, même âge adulte en fait, des Pyrénées quoi. Enfin, j'essaie de retrouver des repères.
Vous cherchez parfois des types de nuages qui ne sont pas là.
Oui, des nuages qui ne sont pas là, qui ne sont pas là, qui sont là, qui sont pas là, qui sont, qui sont, euh, qui sont au-dessus de Beldon, j'en retrouve.
Vous pourriez nous les décrire?
Ouais, des formes moutonneuses, blanches, un peu des cumulus, si on doit parler scientifiquement.
Ah, les gros, là.
Les gros, ça, oui. Mais pas les très gros, les moyens gros. Et qui vraiment bourgeonnent beaucoup. Qui vraiment bourgeonnent beaucoup.
Alex Hayet, est-ce que vous avez la sensation que quand on décide d'étudier les nuages, on se prépare à ce que ça rate, ou en tout cas à ne pas pouvoir, à ce que ça nous glisse des mains?
Eh ben, mon directeur de thèse, c'est marrant, il m'avait dit qu'il avait arrêté, enfin, je déforme, comme d'habitude, on déforme toujours, il m'avait dit qu'il avait arrêté d'étudier les nuages parce que c'était trop compliqué et qu'on comprenait rien, et que c'est un peu comme si c'était insaisissable, enfin là, c'est ma traduction de ces mots, quoi. C'est ma traduction. Traduction, trad.
Et pour insaisissable, parce que c'est une forme qui bouge tout le temps, ou parce que finalement ça ne nous donne pas assez d'informations pour pouvoir avancer dans la météorologie? En quoi ils sont insaisissables? Parce que finalement, si je, enfin, peut-être profane, un nuage c'est de l'eau. Enfin, c'est de la vapeur, c'est plus compliqué que ça, non? Pourquoi c'est inatteignable au point que votre de thèse dise « Oh, pff, les nuages !»
Eh bien, c'est inatteignable parce que c'est pas que des gouttes d'eau, c'est aussi des courants, c'est du vent, c'est de la turbulence qui va très vite dans l'air, qui se structure, se déstructure, et tout ça, c'est difficile à trouver, à modéliser, pardon. C'est difficile à comprendre physiquement, c'est difficile à mesurer, c'est voilà, difficile de généraliser, je pense.
C'est imprévisible, un nuage?
Oui, plutôt.
Ah oui.
Si on parle scientifiquement, c'est un des éléments les plus incertains dans les modèles de climat. Dans le futur, on ne sait pas vraiment comment les nuages vont évoluer.
Ah oui.
Dans le futur lointain, quoi, le climat, quoi.
C'est-à-dire?
Ben, on ne sait pas s'il va y avoir plus de nuages hauts, plus de enfin, comment la. Alors, ouais. Je suis pas expert là-dedans, mais on ne sait pas s'il y aura plus de nuages d'une telle forme ou d'une telle autre forme, plutôt des nuages hauts, des nuages bas, et ça influence la température dans les prochaines années. Voilà.
Nina Moreau, je me tourne vers vous pour vous inviter dans cette conversation, pour aussi convoquer cette expérience dans laquelle vous êtes de tenter de fabriquer un film à partir d'images pellicules de femmes paysannes. Et je voulais vous poser la question, est-ce que ce sont aussi motivés, car vous avez la sensation que ce sont les grandes absentes de la paysannerie?
Ben oui, forcément. Ça a en tout cas motivé le départ du projet de film. Et c'était vraiment quelque chose auquel je tenais, parce que la paysannerie m'intéresse, mais elle m'a toujours paru absente, lointaine, parce que la paysannerie est souvent conjuguée au masculin. Et du coup, j'avais envie de chercher vraiment quels étaient les modèles plutôt féminins. Et c'est difficile d'avoir des représentations féminines dans la paysannerie. Elles sont souvent, elles arrivent plutôt d'une représentation extérieure. C'est souvent les autres qui filment, les autres qui montrent, qui expliquent ce que c'est la paysannerie, mais rarement la paysannerie de l'intérieur.
Et est-ce que vous pensez d'ailleurs que c'est ce qui les a un peu elles-mêmes motivées à prendre la caméra, de tout d'un coup dire « ça suffit, que l'on parle que de ceux et organisons-nous pour celles »
simplement pour nos éditeurs, nos auditrices, tous les éléments en main. Donc Nina Moreau, vous avez pu trouver à la Cinémathèque de l'Ain et ça va. Des archives en Super 8 de femmes paysannes en Savoie qui se sont filmées elles-mêmes, qui ont documenté leur vie de paysanne. Je vous en prie, Nina Moreau, si vous voulez vous emparer de la question, Marie Forge.
Ben, c'est tout à fait ça. À la Cinémathèque, j'ai trouvé des archives de femmes qui se sont filmées, leur travail, les paysages, leur famille. Et ça m'a directement touchée parce que non seulement ce sont des très belles archives en Super 8, mais du coup, ce qui m'a encore plus touchée, c'est que s'il y avait vraiment quelque chose d'intime, on sentait vraiment qu'elles aimaient ce qu'elles filmaient. Et pour répondre à la question de Mathias, c'est vraiment... je pense pas qu'elle l'explique comme on voulait s'approprier, nous, le discours de gens qui nous filmaient, qui nous racontaient, mais vraiment comme un... une urgence, une évidence de raconter pour elles-mêmes d'abord et pour leurs cousins, leur famille, etc., leur mode de vie.
Ce geste de filmer leur vie, pour vous, a été d'abord en direction des proches, parce que je pour relier un petit peu à notre je me dis finalement prendre la caméra pour documenter sa propre vie, voilà. C'est aussi une manière de s'adresser aux absents, à ceux qui ne sont pas là au moment où vous vivez votre vie et vous avez envie de s'adresser à l'absence de vos proches qui ne vous voient pas travailler et qui ne savent pas quelle est votre vie quotidienne.
Exactement. Et justement, la première paysanne que j'ai trouvée, c'était parce qu'elle voulait raconter à ses cousins parisiens qui venaient chaque été faire les foins. Elle voulait leur raconter ce qui se passait pendant qu'ils étaient absents. Tous les travaux des champs pendant l'année hors été, c'est vraiment... elle voulait leur montrer ce qu'ils rataient, finalement. Parce que l'absence, j'ai l'impression que ça parle vraiment de ça. C'est qu'est-ce qu'on rate quand on est absent. Et les cousins parisiens avaient accès à ça par l'image.
Ok.
Vous savez si elles ont organisé des... Puisque vous avez rencontré ces femmes qui sont toujours, toujours en vie. Vous savez si elles ont organisé des projets. Est-ce qu'elles ont eu des projets de projection ou est-ce qu'elles ont fait des projets de projection réalisés?
Ce que veut dire des projets de projection réalisés.
Proches. Est-ce qu'elles ont pu partager la... ce différentiel de temps, parce que finalement montrer des archives, enfin un film de soi-même, quand c'est soi-même qui le montre, on superpose les époques à ce moment-là ou les périodes.
Ah oui, tout à fait. Mais alors tout à fait. Les cousins, c'était l'été et du coup tous les soirs, non peut-être pas tous les soirs, mais elle projetait le film quoi. Elle montrait, en tout cas pour celle du Beaufortin, elle montrait vraiment ce qui s'était passé les derniers mois aux cousins parisiens l'été. Voilà. Et c'était des projections très intimes, du coup, pas du tout publiques.
Ah, ok. Et vous, Nina Moreau, est-ce que vous avez déjà pris la caméra?
Oui, un petit peu, ouais. Ouais.
Et vous filmez quoi quand vous...
Eh ben, un peu
et
tout.
Et vous filmez quoi quand vous...
Un peu tout.
Filmez.
ce que j'aime. Tout ce que je fais. Les gens que j'aime.
Et vous filmez tout le temps?
Un peu. Ah un oui. peu, oui. Monsieur Hayet pourra en témoigner lorsque nous partons en tournée, car ça nous arrive.
Petite confidence à nos auditeurs auditrices, en effet, exactement. Axel Hayet et Nina Moreau chantent dans le même groupe.
Tout à fait.
Qui s'appelle
Atomic Marmalade.
Atomic Marmalade. Peut-être on fait un petit aparté, vous auriez un petit chant d'Atomic Marmalade à nous proposer? À brûle pour point, là, ça, c'était pas préparé.
Ah oui,
ça...
vous nous prenez...
Eh bien, écoutez, moi, si ça vous va, je vous propose une petite pause un petit peu poétique. Comme ça, du coup, vous pouvez réfléchir si vous êtes capable de faire un chant et puis ça fait une petite bascule. Allez, à tout de suite.
Merci, Mathias.
Souvent, sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement, je m'assieds. Je promène au hasard mes regards sur la plaine dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes, il serpente et s'enfonce en un lointain obscur. Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, le crépuscule encore jette un dernier rayon. Et le char vaporeux de la reine des ombres monte et blanchit déjà les bords de l'horizon. Cependant, s'élançant de la flèche gothique, un son religieux se répand dans les airs. Le voyageur s'arrête et la cloche rustique au dernier bruit du jour, mêle de saint concert. Mais à ce doux tableau, mon âme indifférente n'éprouve devant eux ni charme ni transport. Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante. Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. De colline, en vain portant ma vue, du sud à l'aquilon, de l'aurore au couchant, je parcours tous les points de l'immense étendue et je dis, nulle part le bonheur ne m'attend. Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières? Vains objets dont pour moi le charme est envolé. Fleuve, rocher, forêt, solitude si chère, un seul être vous manque, et tout est dépeuplé.
Très amusant cette archive, Mathias. Non, mais ce qui est formidable, c'est qu'on sent l'intention, de, par l'absence des paysages qu'on a devant nous, de nous les évoquer par la poésie. Mais en fait, on ne voit que ce monsieur derrière son micro. On l'imagine. Il est tellement content d'enregistrer. Ça, c'est une belle absence.
Merci.
Alors, donc, est-ce que vous avez pu... Donc, auditeurs, auditrices de Radio Campus, qui vous nous rejoignez, vous êtes dans le flou sur la langue, ça, c'est OK. Nos invités, Nina Moreau...
90.8.
Alex Sayed et Nina Moreau viennent de nous révéler qu'ils faisaient partie du groupe Marmalade...
Atomic Marmalade.
Du coup, comme ça, j'ai brûlé pour point, j'ai eu envie d'entendre Atomic Marmalade. That it's a group that I don't know actually. Could you sing a song for us?
Alors vraiment parce que c'est vous.
Ah merci.
Et on note quand même qu'on est quatre normalement.
Ah.
Peut-être que ça sonnera moins bien qu'en vrai, mais comme ça, on vous invite à venir nous écouter en vrai.
Il y a deux absents quoi.
Oui, il y a deux absentes.
Même. Ok.
Et d'ailleurs, c'est un groupe d'absence.
Oui,
on chante des chansons des années 2000.
Des années qui ne sont plus.
Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un temps long. Je veux juste une dernière danse.
Waouh! Merci! C'est beau! Et alors, Nina Moreau, vous filmez quand vous partez en tournée. Pourquoi vous filmez? Pourquoi vous avez besoin de fixer les images?
Eh ben, c'est une question que je ne sais pas si j'arrive à répondre, parce que je me pose tout le temps la question justement de est-ce que je cherche à figer le moment, est-ce que je cherche à toujours m'en souvenir, est-ce que je cherche à pouvoir partager justement les moments qui me sont chers. Et donc c'est vraiment quelque chose que je n'arrive encore pas vraiment à saisir, mais en tout cas je le fais tout le temps. C'est vraiment un peu comme ça sort quoi.
Parce qu'après vous en faites quelque chose de ces images ou pour l'instant elles restent dans les fichiers, dans l'ordinateur?
Eh bien, ça dépend vraiment de ce que j'ai filmé. Là, comme il y a vraiment une vocation de groupe, j'ai vraiment envie de faire un petit montage, comme un after movie. Mais il y a vraiment d'autres images que je ne montre jamais et qui sont un petit peu comme une absence, justement, de projet.
Et vous savez lesquelles vous ne montez jamais?
Oui.
C'est-à-dire que vous filmez, et puis il y a toute une partie des images, vous les rangez directement dans le fichier. Je ne vais pas les monter. Parce qu'elles sont ratées, parce qu'elles sont...
Eh bien non, c'est plutôt que quand je filme, j'ai envie de faire un montage. Et quand je les mets sur l'ordinateur, tout d'un coup, je les range. C'est comme si c'était déjà des archives, et que du coup, le film allait rester absent. Et il faut que ça peuple un petit peu le disque dur.
Qui sont des objets qui ont besoin d'être peuplés, c'est évident.
Et oui, c'est vrai ça.
Et vous, avec Sayed, vous peuplez vos disques durs, des fichiers absents?
Vous en pensez quoi, vous?
Voilà, on part sur le grand sujet du numérique. Voilà, faudra pas glisser sur le grand sujet du numérique parce que là, on va se perdre. Moi, j'ai aucune pratique de la photographie. Je pense que parce que ça me fait trop trop peur de fixer des moments et d'arrêter quelque chose. Je déteste regarder les albums photos. J'ai parfois des photos de ma vie, quoi. Je déteste ça. Ça me met dans un état de cafard insupportable.
Et pourquoi ça?
Parce que ça donne à voir vraiment de manière très tangible le temps qui passe de regarder des photos d'il y a 10 ans. C'est pas intellectualisé, hein, c'est vraiment très concret. Ça me fait chialer de regarder des photos de ma propre vie, parce qu'en fait, j'ai l'impression que les souvenirs... ce qui me plaît dans le souvenir, c'est de le réactiver en permanence, et j'ai l'impression que la photo arrête l'activation du souvenir. Vous n'êtes pas d'accord, ni amoureux, vous mochez la tête.
Hyper intéressant. J'avais pas vraiment vu les choses comme ça, parce que pour moi, c'est plutôt au contraire l'inverse. La photo active le souvenir. C'est vraiment ça. Moi, quand je vois une photo, j'ai l'impression de revenir peuplée de mes souvenirs et de rentrer dans les souvenirs. Il y a quelque chose de très, 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 très immersif dans la photo pour moi.
Et ça vous provoque pas, ça vous provoque quoi comme émotion?
Ah bah tout dépend de la photo. Si c'est quelque chose d'heureux, tout d'un coup j'ai l'impression que ça me grandit, ça me remplit, plie. Et si c'est quelque chose d'un peu gênant. Eh bien, je pense que je vais tourner la page et je ne vais plus regarder les photos.
On évoquait en préparant l'émission avec Alex... Enfin, vous aviez... Alex Cayette. Des lieux, en fait, qui font revenir les souvenirs, qui réactivent les souvenirs. Et j'ai l'impression que de réactiver un souvenir par une sensation, que ce soit un lieu qui vient, comme vous le décriviez tout à l'heure...
Si.
des arbres. Vous pouviez raconter ce très beau souvenir, en tout cas cette très belle réactivation de souvenir. Sion. Réactivation.
Son lloc on em passejo i en els arbres d'on jugava quan era petit. I el que deia abans, el cafè, quan prenia un cafè, és que fa un mes vaig portar amics de Grenoble al Pirineu, i em va a llocs on anava quan era petit, a arbres on pujava, i això em va activar nous records de quan era petit. Sí. Però són paisatges, són camins, és herba, olors també.
En 3 dimensions, du coup.
4.
4.
Bueno.
Et vous, Mathias Forge, vous me faites des grands signes. Alors nous avons l'extrême honneur d'avoir en ligne Camille Perrin qui est actuellement à Nancy. Bonjour Camille.
Oui, bonjour.
Vous m'entendez?
Alors, je vous entends très bien, c'est basique.
Oui, c'est basique mais pourtant pas toujours facile à mettre en place. Alors là donc vous arrivez en plein milieu du flou sur la langue, on est en train de parler de ce qui nous évoque des souvenirs, comment les souvenirs nous retraversent, comment on peut remarcher dans nos souvenirs, comment on peut revisiter des souvenirs et vous, donc j'ai plein de souvenirs avec vous, Camille Perrin, que je ne vais pas comme ça dévoiler à l'antenne, mais justement, je vous sens complètement ancrée dans le présent. Est-ce que vous pourriez nous faire un point sur la situation au présent de là où vous êtes, Camille Perrin?
Alors, ma situation est très simple. Je suis dans ma cuisine. Il fait extrêmement beau, les lumières traversent les deux côtés de l'appartement, c'est vraiment magnifique. Je suis plus ou moins encore en jogging, j'ai une journée un petit peu tranquille pour une fois, donc je suis un peu dans une sorte d'errance très agréable. Voilà, et je suis très heureux de vous avoir en ligne. La situation est en fait très simple, voilà, elle est pleine de bonheur, de joie. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très nostalgique, donc j'aime beaucoup repartir dans le passé, et je me laisse volontiers toucher et je repense avec beaucoup de nostalgie aux choses qui ne sont plus, qui ne seront plus. C'est ça le malheur du présent, c'est que ben voilà, c'est qu'il est il avance, il est tout le temps là, et voilà, c'est pour ça que la nostalgie me prend, c'est que les souvenirs reviennent, mais voilà, ils ne sont que souvenirs.
Et vous sauriez dire qu'est-ce qui fait remonter les souvenirs? Ils reviennent tout seuls ou il y a quelque chose qui les...
Ah ben ça, moi je ne suis pas du tout spécialiste du cerveau, hein, mais oui, c'est toute une histoire de connexion, d'heure aussi, la fameuse Madeleine de Proust, hein, qui ne peut pas être partagée par nos amis anglais, par exemple. Enfin, si on dit Madeleine de Proust, il ne va pas pouvoir comprendre que c'est de la lecture par rapport au livre de Jean-Marie Queneau. Et du coup est-ce que les Anglais ont qu'est-ce que les Anglais ont comme Madeleine de Proust? Voilà, c'est ça que j'aimerais poser comme question aujourd'hui à la radio.
Qu'est-ce que les Anglais ont comme Madeleine de Proust? Eh bien, merci beaucoup Camille Perrin depuis Nancy de nous ramener cette question. On va la tricoter. Merci Camille. Bonne fin de journée.
Merci à vous. C'est très court et en même temps, c'est bien. C'est bien.
C'est le présent. C'est le présent. Il est toujours très court. Hein.
Voilà. Saluez votre invité. Je vous salue Mathias. Et puis, bonne continuation à vous. Et évidemment, je salue tous les amis grenoblois que je chéris dans mon cœur. Anne-Laure Picache.
Mathias Forge, le flou sur la langue.
Alara. Voilà. Ça, c'est que j'avais d'art. Un paravax à ta star d'un Madeleine d'Apraste. Alors, moi, j'ai pas l'Apraste. Déjà, je connais tellement de canas que ça, la Madeleine d'Apraste. Va s'arrêter d'art, ce que ça parva, Mathias, Nina, Alex, votre Madeleine d'Apraste, quelque chose qui marche à chaque fois. Tac, cette citation, tac, Madeleine d'Apraste à Sarah.
Vous pouvez dire au même tout, s'ouvrons pour vous.
Et pour mieux le Madeleine de Proust sur le Taufruz, sur une ursure, une sur le Taufruz, Madeleine de Proust sur rue.
Cavarava à votre face, à Calapac.
Si. Tu les une ursure sur le Taufruz au chuc une ursure.
Quelle chasse!
Tifi, Iki, Chili, di frise?
Ni, frumbris.
Chiti.
Je te juste au Proussouzou que le mot de l'un de Proust, ou que le mot de l'un de Proust, ou n'importe quoi, se pouf ou se mou, ou mon joue. Faut au deux mots de l'un de Proust, mais se pout ou.
Moutius Fourge, Miti, Mantas Farge, qu'est-ce que va être Madeleine d'Apraste?
Alors, je vous pour le chou le costaud au cours, mais je te juste entre de mots vous pour l'autre sur le tout frouze, que du coup je me dis qu'une sur le tout frouze, qu'un tour moussou, tout ça, mais il y a plus de choses que peut-être une Madeleine de Proust. Je me joue.
Ça, mais ça trappe personnel, une Madeleine de
Proust. Non, je sais que c'est trop personnel, mais c'est juste pour dire qu'on ne peut faire ce mot sur une Madeleine gastronomique.
Avadama.
Ah, il y a du mieux, mais.
Non, mais je peux nommer votre Madeleine, non. Je n'ai pas de problème avec votre Madeleine.
Je suis plus sardasse avec votre Madeleine, hein, franchement.
Tout au fou. Ou luxe, ou yout, votre Madeleine.
Mimidlin di Priest et. Chissina Nipilitin. Chissin Nipilitin. IAI artiste, Gigi Dilisi, et qui est qu'il TV qui dit Iri Piti, et Pliri.
Baka, Sestamatakma?
Systematikmi.
Asan Chatar? Alan Chatar?
Si.
Qu'est-ce qu'un chat comme chassin?
Pip Nipiliti. Nipiliti.
La malada? La mazak, ça la parfait châtel d'Apraste, pas ta châtel d'Apraste, Madeleine.
Je me recoute que je suis une costaud, parce que du coup, pour que les autres tours ou les autres trousses se reposent au bio, que juste vous, le monsieur, nous avons pour l'eau de photom. Juste pour dire que tout le monde souche. Ou du coup, je me demande l'eau où vous que le costaud de l'eau Madeleine, ou ce que le Madeleine de Proust, sous une photom, ou morge ou prousou. Non, vous voyez ce que je veux dire? Que je le pressoque, c'est tout au coup, une poutou foutoum, que pour se moutre, que dans une poutoufle, que dans une modeloune, que dans un choucou, pour couper au choucou.
Oui. Non oui, finalement, la Madeleine, le fantôme aurait une forme de Madeleine.
Oui, c'est pourquoi je dis que le modeloune, c'est pour tout le coup de foutoum, que au mourge au pressoque. J'aime. Non, mais ce mot autoreçu pour le coup de pourlou avec Marcel Proust. Bon, Marcel Proust au topsou.
Ce grand absent Marcel Proust. Est-ce que vous pourriez. Nous pourrions tous ensemble.
Le pot au potionneau pour mon costume, l'ours.
si, je pense à nos éditeurs, nos éditrices qui n'ont pas suivi cette conversation sur la photo, mais j'aime beaucoup cette idée que la Marlène de
Donc, je prends foot pour dire que l'oiseau de tour ou l'oiseau de trousse, vous nous posez au dessous, vous nous posez au dessous, vous êtes vos nous, vous êtes vos nous, ou de tour ou de trousse.
Là, on pense à vous, et pour vous, nous allons faire la liste de tous nos absents qui nous habitent. C'est parti. Alors, celle-là, elle peut être longue.
Oui, c'est une liste qui va être très très longue.
Il y a des absents. Il y a Marie, par exemple, qui est trop loin.
Des absents familiaux.
Qui existe, qui est là.
Des paysages qui sont absents.
Les absents existent.
Des absents maritimes, la mer, les vagues. Les nuages, les vagues. Bon, ça, j'en ai parlé dans l'intro, donc c'est un peu chiant d'en reparler maintenant.
Ma grand-mère, ma deuxième grand-mère.
Effectivement, il y a
grand-père
tous les
est
amis
absent,
qui sont
son,
loin
son absence de Grenoble.
L'enfance, surtout. Je pense que même l'enfance est une forme.
C'est une absence qui est
l'absence
c'est une absence qui est quand même difficile à traiter parce que elle est à la fois présente. Enfin, c'est des gens que j'appelle souvent, mais j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps absents.
Ce qu'on a aimé, ce qu'on pas.
Il y a tous les lieux familiaux, tous les endroits où. Où j'ai grandi de mon enfance dans différents territoires, ça c'est vraiment très compliqué de gérer cette absence-là, je trouve.
Qui nous enveloppe,
l'absence de
peut-être quand on est absent de notre propre corps, les émotions,
les vies que je n'ai pas eues et que j'aurais pensé que j'aurais pu avoir.
C'est quand même quelque chose de.
Et qui parfois se réinvite, où je me dis ah tiens, c'est
pas plein.
Mais
comment se passe ces absences ?
J'aimerais beaucoup pouvoir.
Je ne l'aurais pas.
Avoir ses absents proches de moi.
Ça,
en fait,
c'est des absences qui parfois.
Et le physique.
Quand je le souhaite.
Font un peu mal.
Quand je le souhaite.
Je
ensuite.
Je
pense à toutes ces rencontres qui sont disparues.
Être une des
filles.
Je suis vide en fait. Toutes ces rencontres dans lesquelles on a mis tellement.
Parfois, c'est pas que.
D'énergie. D'attachement. Et qui aujourd'hui n'existe plus. En fait.
Le choix de nos cerveaux.
Les anciens amoureux, amoureuses.
De choses.
Quelque chose.
Les amitiés qui se sont défaites.
De nos vies.
Donc, ton concept, en fait, l'absence, c'est pas forcément quelque chose qu'on a choisi d'évacuer, mais.
On réagit différemment à chaque fois qu'on est dans
un complètement pas conclure que. Puisque
on
c'est
le paysage,
ces vies-là, ces voyages-là, ces aventures-là n'ont pas eu lieu, alors ça veut dire que.
Du coup, on crée des absents.
Ça veut dire
qu'on vit, on crée des absents.
Ça veut dire que.
Et on crée des absents.
Finalement, il y a
on crée des absents.
Autre chose en
ce qu'on est absent.
Qui s'est configuré.
Il y a des gens qui partent.
Comme si.
Et
quand c'est un meilleur de
avancer dans la vie.
Comme en fait, finalement, cette émission.
Générer les absences.
Cette émission. Elle part, elle est absente. Elle sera absente dans 20 minutes.
Tous ceux qui.
Et les souvenirs les ramènent.
Sont plus là.
Axel Hayet, je me permets de faire référence à, pour le coup, un petit souvenir qui nous concerne, puisque je crois que c'est la première fois que je vous ai entendu chanter. C'était pour célébrer le départ de quelqu'un, en tout cas. Et du coup, j'ai envie de parler de ce moment, parce que c'était un moment assez intense, en tout cas, pour bon nombre de gens qui étaient sur place. Et je me demandais, vu que vous êtes deux qui pratiquez le chant, même trois, excusez-moi Anne-Laure, je ne vous ai pas mis dans la boucle. Excusez-moi Anne-Laure.
Non, vous êtes au présent.
Non, mais c'est un chant qui est tellement.
On ne sait même pas comment qualifier.
En tout cas, c'est vrai que vous chantez rarement pour les enterrements, par exemple.
Oui.
Oui.
Oui, voilà. Mais je peux pas.
Voilà.
C'est trop d'émotions.
Oui,
non,
voilà.
On m'a demandé.
Ah, on vous a demandé.
Oui,
déjà.
J'ai refusé, ce n'est pas possible.
Okay.
Je trouve que le chant et la voix est un endroit d'une telle émotion que chanter pour le départ de quelqu'un est un acte de bravoure, de dépassement de soi qui me fascine.
Eh bien, c'était de ça dont je voulais parler. C'est presque, du coup, ça me donne envie, ce dont témoigne Anne-Laure, de comment on se prépare à ça, comment ça se passe. Est-ce que ça, c'est une des, pour vous, des fonctions importantes de ce que... Enfin, voilà, de... Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites ? S'il y avait des choses à en dire.
C'est un gros sujet. C'est pas facile. Ouais. Moi, j'ai l'impression que la préparation de ce chant, c'était presque plus important que le moment chanté pour moi, dans le sens où ça a créé une forme de deuil collectif avec les gens qui se retrouvaient pour chanter ensemble. Alors que le moment du chant, c'était un moment où j'étais tellement à l'intérieur de moi-même que j'étais finalement l'émotion est venue après.
Bah oui, c'est normal.
Et quand vous parlez de la préparation, c'est-à-dire que vous pourriez associer ça à un rituel qui s'est passé du fait de préparer ensemble un chant qui est quelque chose de
commun. Mais oui, carrément, un rituel.
Eh ben, oui, on sait. Ben, si on le prend sous cet angle-là, effectivement, la préparation d'un chant polyphonique, c'est un peu un rituel. On se retrouve avec certains codes et on s'est retrouvé plusieurs fois pour répéter, pour trouver les voix. Donc il y a eu toute une partie de rentrer dans le texte, de s'approprier. C'est un chant de deuil à la base. Enfin, c'est un chant qui a été écrit pour une personne qui était décédée par le groupe qui l'a écrit. Donc il y avait toute une partie de s'approprier ces paroles-là déjà et qui sont ultra poignantes, quoi.
C'est très très beau, ouais.
Et ça en soi, c'était déjà une forme de pour moi de deuil assez fort.
Mais c'est d'ailleurs étonnant comment tout à l'heure on parlait des chants traditionnels. Quand on chante des chants traditionnels, on peut sentir que en fait on chante au-delà de soi et de sa propre personne.
Oui, totalement.
C'est toujours étonnant comment un chant se charge parce qu'il est ancré dans une histoire ou là dans une situation très précise. Comment le chant nous dépasse par tous les absents qui viennent le peupler. Je trouve que l'endroit de la chanson est vraiment un endroit où en fait on convoque souvent les absents, le chant, parce que enfin même si c'est une chanson qu'on invente, mais c'est vraiment j'ai l'impression que c'est un endroit où on fait une petite ronde avec tout plein d'absents, même des absents qu'on ne connaît pas, qui peuvent venir charger le chant.
Oui, parce que j'ai l'impression que
Nina Moreau.
J'ai l'impression que la chanson, c'est un petit peu comme... convoquer vraiment quelque chose quelque de tellement chose intime de, que tellement tout le monde peut s'approprier. À la fois les paroles, la musique, mais à la fois tous les souvenirs qui débarquent un peu sans prévenir. C'est un peu comme si ça faisait tout d'un coup collectif, sans que personne ne se le soit dit avant. Je vais chanter. Je vais chanter à destination à la fois du public, mais à la fois peut-être des absents qui me peuplent. Et les gens qui vont m'écouter vont être peuplés eux aussi de leurs absents et de leurs absentes. Que la musique vient leur faire ressentir. Et du coup, j'ai l'impression que le chant multiplie les absences. Et à la fois, il y a une forte présence de tout ce qu'on partage au moment du chant.
Vous avez donc déjà chanté pour les enterrements ?
Non, jamais. Mais je crois que ça me... je répéterai un petit peu Anne-Laure Pigache, parce que je trouve que ça sont des moments tellement denses que je ne serais même pas capable d'honorer le chant de façon assez pleine. Et je pense que je me laisserais trop déborder d'émotions. J'aurais beaucoup de mal, mais je trouve en tout cas à chaque fois que j'ai pu, heureusement, elles étaient peu nombreuses, mais quand j'ai pu assister à des concerts lors d'enterrement, j'ai toujours été bouleversée.
Et que diriez-vous du fait que de la tradition, enfin de un peu le, parce que moi je trouve que dans cette question de chanter pour des absents, avec des absents, il y a une question de chanter avec des absents qui font partie d'une culture, d'une d'un endroit duquel vient le chant. Est-ce que ça vous évoque quelque chose pour et que des fois on appelle tradition en fait, mais bon, c'est je sais pas
quand
si c'est un terme
chante, quand on chante dans d'autres langues, vous voulez dire, langues, vous voulez dire.
Oui, ou même oui, des chants même. Qui sont alors soit dans d'autres langues, soit dans des langues régionales, comme on dit, enfin en tout cas, ou alors des chants qui sont issus d'une forme de tradition locale, d'une culture un peu qui n'existe plus, qui sont issus de collectage, enfin.
Oui, finalement, on est un petit peu, on devient un peu vecteur avec ces chants-là. Et c'est forcément essayer de chercher dans notre imaginaire aussi et dans nos représentations ce que sont ces chansons-là. Parce que si je chante un chant du Béarn, je ne suis jamais allée dans le Béarn.
Je n'ai jamais
allée à cette
époque-là.
Et donc, c'est forcément chercher en moi
quelque chose.
D'une identité ou d'un paysage, tonalité que je vais peut-être inventer, mais en tout cas qui me connecte.
Merci Nina Moreau pour ce témoignage. Je vous propose d'écouter une chanson pleine de romantisme, un petit peu surannée, qui évoque un autre type d'absence.
About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will. Of the charm, always stay in love.
combien d'absences amoureuses vous peuple?
Mais est-ce que c'est une question à laquelle on peut répondre?
Et elles sont, enfin, c'est quoi une absence amoureuse quand même?
Est-ce que l'amour n'est pas toujours une absence?
Est-ce que l'amour est tout le temps, ne serait-ce? Est-ce que l'amour serait présent une seule fois?
Est-ce que l'amour est une fuite?
Oh, est-ce que l'amour est un risque? Je ne dirais pas ça.
Est-ce que vous avez un avis arrêté dessus?
Mais pourrait-on seulement l'arrêter?
Est-ce que vous avez des blessures amoureuses encore présentes?
Mais qu'est-ce qu'on appelle blessure, au fond?
Est-ce que vous avez des blessures amoureuses guéries?
Et est-ce qu'on peut anticiper les futurs?
Est-ce que vous êtes en train d'être amoureux, là, depuis chez vous, en écoutant la radio? Est-ce que vous êtes en train de pleurer après avoir entendu cette chanson?
Et est-ce que cette chanson convoque vraiment les absents et les absentes?
Est-ce que vous aimez aimer? Que vous aimez le sentiment amoureux?
Est-ce que vous avez lu Roland Barthes?
Est-ce que vous aimez la douleur de l'amour?
Est-ce que vous aimez la tragédie?
Est-ce que vous êtes romantique?
Mais qu'est-ce que le romantisme en 2026?
Est-ce que c'est ringard d'être romantique?
Est-ce que vous êtes absent à vous-même?
Est-ce que vous êtes là, tout de suite? Où êtes-vous?
Qui suis-je? To be or not to be?
Est-ce que vous aimez les références, Nina Moreau?
Comment ne peut-on pas aimer les références?
Vous avez la tête dans les nuages, Alex Hayet.
Est-ce que vous aimez la tarentelle?
Est-ce que vous savez danser la tarentelle, à l'orpigache?
Est-ce qu'un paysage précis vient dans votre esprit quand vous entendez cette tarentelle qui a disparu? Est-ce que vous croyez à cette histoire d'araignée?
Est-ce que vous aimez danser pieds nus dans le sable?
Est-ce que vous avez la sensation du sable là sous vos pieds tout de suite? Où que vous soyez.
Et est-ce que la chaleur de Sicile ne pourrait pas un petit peu nous envelopper?
Est-ce que vous aimez vous baigner dans l'eau salée?
Est-ce que vous sauriez nommer tout ce qui est absent autour de vous, là maintenant?
Thank you.
c'est le flou sur la langue du mois d'avril. Un grand merci à Nina Moreau et à Alex Hayet d'avoir accepté de vous plonger dans cette drôle aventure du flou sur la langue. Pour nos auditeurs et nos auditrices, vous pourrez nous retrouver en public ou sur Radio Zinzine le 1er mai pour ce magnifique festival du numéro 0 qui a lieu à Fort-Calquier le premier week-end de mai d'ailleurs, voilà c'est ça, le tout premier week-end de mai. Un dernier mot pour la route.
Chérie, c'est nous absents.
Évanescence.
À bientôt. Au revoir Mathias. Restez à l'écoute. Allez, salut.
Pigache. Mathias Paul.
Le flou sur la langue.